Dieu notre Père, nous voulons te demander que maintenant tu nous accordes la grâce de comprendre le message que tu as voulu nous laisser dès ce matin et qu'ensemble nous puissions être illuminés par ton esprit et que les vérités que tu veux nous faire saisir, nous puissions les garder dans nos cœurs et en vivre quotidiennement parce que nous aurons été formés à ton école, cette plus vieille école qu'est l'Écriture, et par le meilleur des maîtres, le Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, ceux et celles qui ont pu participer aux trois retraites de cette année auront remarqué que nos trois thèmes se rapportaient au culte que tout croyant doit rendre à Dieu, soit individuellement, soit collectivement. En février et mars, le thème de notre retraite était donc le repas du Seigneur, la Sainte Cène ou l'Eucharistie, qui est au centre d'un culte rendu par les croyants et qui n'est pas complet s'il n'y a pas la Sainte Cène, le repas institué par le Seigneur lui-même. Karl Barth le disait lui-même, un culte sans Sainte Cène est incomplet. Et c'est en réponse à la demande expresse du Seigneur que l'on célèbre la Cène en nous rappelant les paroles de Jésus. Et elles sont très fortes pour mon cœur dès ma jeunesse. Je les saisis. Il y a un désir du cœur du Seigneur auquel je puis répondre, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est un véritable engagement, de sorte qu'on ne le prend jamais trop souvent, de sorte que nous savons que dans l'Église primitive, c'était tous les jours que l'on participait à ce mémorial, et ensuite c'était dimanche, après dimanche, le premier jour de la semaine, quand on a séparé la scène de la date, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et dans ces moments-là, entourant la personne du Seigneur, nous rappelons dans ce qu'on a appelé si simplement la fraction du pain et dans la coupe qui contient le fruit de la vigne, nous rappelons que pour nous sauver et nous racheter, Jésus a livré son corps en sacrifice et qu'il a versé son sang à la croix. Jésus n'est pas venu seulement pour prêcher une doctrine. Et ce n'est pas par les paroles de Jésus que nous pouvions être sauvés, mais c'est par sa mort. Et c'est pourquoi nous rappelons sa mort. Mais ce que nous savons, c'est qu'il n'est plus sur la croix. Il a été sur la croix. Mais il est ressuscité, il est vivant et il est notre souverain sacrificateur auprès du Père. Donc nous rappelons que c'est par sa mort que nous avons la vie. Et moi je me souviens, quand j'ai saisi cela, j'avais 14 ans, je me suis dit, si je vis, c'est parce qu'un autre est mort pour moi. Bien, vous savez, ça bouleverse une existence. Quand vous savez que quelqu'un est mort à votre place, et que c'est à cause de cela que vous, vous êtes vivant, et que vous pouvez vivre pour vous-même, vous retombez dans l'Écriture qui dit « Nul ne peut vivre pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous ». Et vous savez, un jour que j'ai dû faire un culte militaire pendant la guerre en Suisse, eh bien, j'ai pris cette devise que de notre pays, un pour tous, tous pour un. Et je pouvais facilement en faire une application spirituelle. Un pour tous, c'est le Seigneur pour tous, et tous, tout notre peuple devrait être pour le Seigneur. Il y a des devises dans nos pays et qui disent beaucoup de choses, comme celle des Français, liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas de liberté en dehors de Christ, il n'y a pas d'égalité en dehors de Christ, et puis il n'y a pas de fraternité en dehors de Christ, puisque il nous donne le même Père. En dehors de ça, c'est des camarades. Et la République des camarades, ben, elle tombe en ruine. Alors, souvenons-nous de cela. Il faut avoir un Père pour être des frères. Et qu'est-ce qui nous fait connaître le Père? C'est Jésus. Je me souviens toujours, en France, on m'avait demandé alors, le 11 novembre, de faire un discours. J'étais là de passage dans cette ville, puis les autorités me demandent de faire un discours patriotique là. Il y avait tous les militaires. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois refuser? Je ne fais pas de politique, mais je peux quand même prêcher l'évangile à tout ce monde, catholique ou protestant, tout c'était là. Et j'ai pris ce thème, liberté, égalité, fraternité, en mettant tout au centre, la personne de Jésus. Et vous savez, quand vous prêchez Jésus, vous ne vous trompez pas. Il suffit de voir des gens, même avec des galons qui viennent à la sortie et qui vous serrent la main en vous disant la reconnaissance d'avoir osé dire ces choses. Parce que beaucoup, au fond, souffrent de ce qu'on ne les a pas enseignés. Et je me souviens aussi d'un général anglais à Phnom Penh qui est venu me dire à la sortie « Very good message ». Et pourtant, j'avais dit une chose effroyable pour ces gens-là, que si nous n'étions pas le sel de la terre, eh bien nous donnions raison à ceux qui ont dit que l'évangile ou le christianisme, c'était l'opium du peuple. Et mon traducteur, qui était un capitaine américain, de Berlin, qui était à Berlin, il n'a presque pas osé traduire. Il a dit que nous n'étions rien. Mais il n'a pas dit opium du peuple, mais tout le monde avait compris. Et il y a eu un rire dans l'ambassade américaine quand il n'a pas traduit ça. Parce que c'est pas à dire opium du peuple dans un pays comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas citer les auteurs? Eh bien, je me souviendrai toujours ce général américain, Erubel Messet. Et puis, quelques jours après, à Saïgon, je reçois une lettre avec un chef de l'ambassade américaine pour me remercier. Il prenait tous mes frais de voyage à leur compte. Je leur avais rien demandé. Alors, le cœur de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et il tient les rois dans ses mains comme des ruisseaux. Donc pourquoi est-ce que nous avons peur des hommes? Un jour, j'aurai à rendre compte à mon Seigneur. Peu importe qu'on me critique, si le Seigneur m'ouvre une porte, j'y vais. Mais je n'essaye pas de m'ouvrir des portes. Comprenez-vous? Parce que là, on se blesse aux mains, puis on est toujours malheureux. On est tout ensanglanté. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'être ensanglantés. Il nous demande d'être rayonnants. Parce qu'il marche devant nous. Il brise les verrous de fer et il casse les portes des reins. Alors, je vous disais que tous les messages que nous vous avons donnés concernent au fond le culte que nous avons à rendre au Seigneur lorsque nous nous rassemblons pour l'adorer. Lui qui a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc nous croyons à une présence réelle quand les croyants se réunissent. Notre seconde retraite, que nous avons eue en novembre, nous a conduit à traiter le sujet de l'adoration. Et nous avons vu qu'adorer, c'était rendre à la divinité le culte qui lui est dû. Et nous avons cherché dans l'Écriture ce que nous apprenions sur l'adoration. Et nous avons vu que le mot adorer ne pouvait s'appliquer qu'à Dieu seul. Alors qu'aujourd'hui, le monde emploie le mot adorer pour tout. Le mot adorer ne s'applique qu'au Dieu qui est révélé dans la Bible, dans l'Écriture. Tout hommage rendu à une autre divinité que le Dieu d'Israël révélé par Jésus-Christ est quoi? De l'idolâtrie. Et je vous ai fait une liste dans l'autre feuille. Ceux qui désireraient avoir la feuille de la précédente rencontre, je pourrais en donner quelques-unes, c'est de l'idolâtrie. Et nous sommes devenus un peuple d'idolâtres, parce qu'on adore tout, n'est-ce pas? Nos dictionnaires disent que, oui, c'est aimer excessivement, hein, adorer, aimer excessivement. Mais ils disent bien quand même que c'est le culte qu'on doit rendre à Dieu seul, au Dieu unique. Alors, Dieu étant esprit, il veut être adoré en esprit et en vérité. Et cette adoration revêt pour nous le sens, nous l'avons vu la dernière fois, d'un sacrifice qui est dû à notre Créateur devenu, quoi? Notre Rédempteur. Et l'adoration nous amène à nous prosterner devant Dieu et à lui donner notre cœur, notre être tout entier. Et nous avons souligné qu'au fond, Abraham, dans son adoration sur le mont Morija, qu'est-ce qu'il donnait? Il donnait Isaac, mais c'était son cœur. Et c'est ça l'adoration, c'est donner son cœur, c'est donner son Isaac. Et l'adoration se résume en une contemplation par la foi de celui qui est invisible, non seulement dans nos rassemblements, mais aussi dans notre marche. Nous disions que nous ne participions pas à des marches, comme ça se fait aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que nous devons marcher tous les jours. On n'a pas besoin de faire des marches spéciales. Nous avons à marcher comme des chrétiens tous les jours, mais pas à nous mêler à tout ce monde qui veut faire des marches pour ceci, pour cela, alors qu'ils ne sont pas même régénérés. Si nous avons bien compris cela, alors que nous pouvons laisser le monde faire toutes ces marches, pendant qu'ils font leur marche, nous nous mettons à genoux pour prier que ce soit Dieu qui opère dans les cœurs. Parce que ce n'est pas avec ces grandes marches qui finissent dans les restaurants, finalement, et dans des petites coteries, que l'on fait avancer le royaume de Dieu. Mais c'est dans une prière fervente et en étant vraiment conséquent. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, on imite tellement le monde. Le monde fait ses marches, et bien nous voulons faire aussi nos marches. Alors que c'est tous les jours que nous devons marcher comme des chrétiens. Et alors qu'après sa conversion, à 65 ans, il a marché avec Dieu pendant combien d'années? 300 ans. Et il était un adorateur dans sa marche. On n'est pas seulement des adorateurs dans un culte personnel ou collectif, on est des adorateurs dans le chemin où l'on marche. On doit savoir qu'on ne nous détournera pas de nous prosterner seulement devant Dieu. Jean, quand il a voulu se prosterner devant un ange, il a été repris et l'ange lui a dit « Garde-toi de le faire, adore Dieu ». Et je crois qu'il y a des mots qui ne doivent plus passer par nos lèvres si elles sont sanctifiées. Et alors, si dans l'Ancien Testament, l'adoration nous est montrée par des sacrifices, si l'adoration s'exprimait par des sacrifices d'animaux, de taureaux, d'agneaux, de boucs ou de colombes, nos sacrifices, depuis la venue du Seigneur, sont des sacrifices spirituels qui viennent du cœur, mais qui ne se limitent pas seulement par le fruit des lèvres, comme on le dit souvent, mais aussi par le don de nos biens, par notre libéralité vis-à-vis des pauvres, et surtout en offrant nos corps, pas seulement nos âmes, mais nos corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Voilà les quatre sacrifices qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament, qui sont résumés dans la seule offrande de Jésus qui comprend tous les sacrifices que nous avons étudiés dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique. Maintenant, ce sont des sacrifices spirituels. Alors, aujourd'hui, notre sujet était la louange. Et quelles sont les définitions que nous pouvons donner au sujet de la louange? Louer, c'est reconnaître la qualité d'une personne ou d'une chose. C'est faire l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose. Tandis qu'adorer, ça ne s'adresse qu'à Dieu. Mais louer, on peut louer une femme, par exemple la femme vaillante des Proverbes, son mari la loue. On peut louer quelqu'un, n'est-ce pas, qui nous impressionne par des paroles. Mais attention, hein, qu'un autre te loue et non pas ta bouche. Le Proverbe 27, je dois garder mes louanges non pas pour moi, mais pour les autres. Et on est heureux de pouvoir louer, mais en louant, on n'adore pas, comprenez-vous. Sinon, Dieu lui-même, il y a dans l'adoration forcément une louange. Alors, mais nous nous comprenons bien. Mais donc, on peut faire l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose, ça c'est la louange. C'est en relever les mérites par des paroles. Alors, le terme louange dans la Bible sert à décrire un des privilèges du croyant. Et je voudrais qu'on ait bien compris cela aujourd'hui, que le privilège du croyant, ce n'est pas de se plaindre, mais c'est d'être reconnaissant et de louer le Seigneur au travers de toutes nos épreuves. Nous avons un Dieu qui est digne de louange. Savez-vous combien de fois, dans la version seconde que vous avez, on trouve cette expression que Dieu est digne de louange? 49 fois, il est dit que Dieu est digne de louange. Et 65 fois, dans la même version, nous sommes invités à le célébrer. Nous devons célébrer d'abord Dieu et qui est digne de louange, qui fait toutes choses si belles dans la nature. Alors, nous n'adorons pas la nature, nous n'adorons pas les êtres, mais nous pouvons louer Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans la nature. Dans ce monde, il a fait des choses merveilleuse. Et quand nous voyons nos organes, nous sommes nous aussi des créatures merveilleuses. Alors au lieu de toujours se déprécier, eh bien, croyez ce que le psaume 139 nous dit, nous sommes des créatures merveilleuses. Je suis une créature merveilleuse, voilà quelque chose de tonique. Mais ça ne me met pas en avant, ça ne me glorifie pas. Si je suis une créature merveilleuse, quand on y pense à notre cerveau, quand on pense à nos yeux, quand on pense à nos oreilles, à l'ouïe, bien nous sommes des créatures merveilleuses. C'est bien mieux qu'un ordinateur. Et je ne vise personne, surtout pas celui qui se croit visé. Nous disons que quand nous prêchons, chacun, et moi le premier, nous devons nous sentir concernés. Mais je voudrais que, une fois pour toutes, vous sachiez ceci, je ne vise personne. Et je ne connais pas la situation des uns et des autres. Alors, 65 fois, nous sommes invités à célébrer ce Dieu qui est digne de louange, et on lui donne gloire ainsi qu'à Christ 167 fois. Depuis la première page à la dernière page de la Bible, il y a 167 fois cette expression qu'on doit donner gloire au Père comme aussi au Fils. Et c'est cela qui est la raison d'être d'un culte vraiment public, comme aussi la manifestation de notre connaissance individuelle et quotidienne. Il y a un culte qui est public et nous donnons gloire au Seigneur, et dans un culte public, le monde devrait savoir que si on se réunit, c'est pas pour écouter un grand prédicateur. On ne se réunit pas dans l'adoration pour écouter quelqu'un, mais pour apporter au Seigneur notre culte de louange et d'adoration, qui est fait aussi de silence. Car, comme l'a bien reconnu la version La Colombe, au psaume 65, que je cite en passant, « Pour toi, le silence est louange. » Des gens réunis en silence et qui se prosternent, eh bien, c'est une adoration. Mais on ne connaît plus la valeur du silence. C'est pourquoi j'essaye de redonner cette dimension du silence en vous envoyant dans vos chambres pour méditer silencieusement. Car si vous voulez entendre la voix de Dieu, c'est pas dans le bruit qu'on l'entend, c'est dans le silence. Et si à la Pentecôte ils avaient été si bruyants, eh bien, ils n'auraient pas entendu un son qui venait du ciel. Pour entendre le son qui vient du ciel, il faut savoir être encore silencieux. Et alors la louange, si on étudie l'Écriture, elle peut revêtir plusieurs formes. Celle qui est due à Dieu implique donc d'abord l'adoration, elle revêt alors la forme d'un sacrifice. C'est pour moi l'adoration, la louange à son sommet. Ainsi, nous lisons, celui qui sacrifie la louange me glorifie. Psaume 50, verset 22. Là, la louange se mêle à l'adoration. Et puis, dans Hébreux 13, verset 15, pour vous montrer l'accord entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il est parlé du fruit des lèvres qui confesse son nom. Offrons à lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13, verset 15. Alors, quelle nuance peut-on faire entre la prière, la louange et l'adoration? Quelqu'un me disait, mais l'adoration et la louange, c'est la même chose. Dans un sens, oui, mais l'adoration n'est due qu'à Dieu seul. C'est là la différence, n'est-ce pas, de la louange. Mais la prière, eh bien, la prière est l'acte par lequel nous nous approchons de Dieu. Eh bien, la prière est l'acte par lequel nous nous approchons de Dieu. C'est ça la prière. C'est l'acte par lequel nous nous approchons de Dieu. Nous lisons la parole, nous nous approchons de Dieu par la prière. Mais il y a différentes sortes de prières. Je ne peux pas m'étendre sur ce sujet. Mais donc, l'apôtre Paul nous dit que nous devrions prier sans cesse. Au fond, nous devrions avoir une vie de prière. Et dans cette vie de prière, il y a plusieurs formes. Il y a, par exemple, quand on nous téléphone de Hall ou d'ailleurs, qu'une chère amie est très malade et que nous devons prier, nous nous rassemblons et nous intercédons. Il y a la prière d'intercession, où l'on prie pour quelqu'un qui est peut-être en danger de mort. Nous ne dictons pas à Dieu ce qu'il doit faire, mais nous entourons cette personne de nos prières et nous disons au Seigneur, Seigneur, même si les docteurs l'ont condamné, nous nous attendons à toi. Et si c'est ton moyen d'évangéliser par une guérison, nous le croyons, n'est-ce pas? Et tu peux faire ce miracle. Or, le miracle semble bien avoir été fait, n'est-ce pas? Si j'en crois les nouvelles que nous avons reçues, l'enfant vit. Et la mère qui devait mourir, qui ne pouvait pas traverser cette opération, elle vit. Et je crois qu'elle sort bientôt, si ce n'est aujourd'hui, de l'hôpital. De sorte que les médecins sont confondus. Bien, ça c'est une manière que Dieu emploie aussi pour parler au cœur de ces gens qui ne pensent qu'à leur science et à leur pouvoir et qui nous condamnent. C'est Dieu qui fait vivre et c'est Dieu qui fait mourir. J'avais dit à cette jeune femme, tu sais, c'est pas une catastrophe d'aller vers le Seigneur s'il veut te reprendre. Mais si tu es, et elle avait un mari, elle avait déjà un enfant, si le Seigneur veut te guérir, il peut le faire. Et le Seigneur a trouvé bon de le faire. Alors, nous louons Dieu pour ses merveilles, car c'est vrai qu'il est merveilleux. J'ai encore ma femme aujourd'hui qui en est le témoignage, alors que le 25 juin, elle aurait pu s'en aller. Par la grâce de Dieu, nous voyons encore des choses qui nous poussent à la louange. Donc, il y a des prières de louange, des prières de reconnaissance au Seigneur. Mais, au fond, nous devrions être toujours en prière. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire tournez-vous les pouces en marmottant des prières, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à marmotter des prières, mais nous sommes en relation avec Dieu. Nous vivons dans la dépendance. La vraie prière, c'est la manifestation de notre dépendance totale de Dieu. Dans ma joie, je loue. Dans la détresse, je crie, je pleure peut-être, mais aussi je me soumets d'avance parce que je sais que mon Dieu ne se trompe pas. Il m'éprouve, mais il a aussi compassion et c'est un Dieu qui mesurera mes épreuves à la force qu'il va me donner. Alors, la louange est l'occupation de l'âme qui va à Dieu pour le remercier, lui rendre grâce pour les bénédictions qu'il nous accorde chaque jour et pour ce que nous découvrons de lui. Est-ce que vous avez fait des découvertes depuis votre conversion de lui? N'est-ce pas personnel, c'est ça? Alors, quand vous faites une telle découverte, vous le louez. Alors, c'est des mots nouveaux qui sortent de votre bouche. C'est quelques aspects de sa beauté que vous n'aviez pas encore discernés. Alors, ça vous met une nouvelle louange dans un culte. C'est pas des vaines redites. Jésus nous a donné un modèle de prière, mais justement pour que nous n'ayons pas de vaines redites. Et ce qui m'a bouleversé un peu en Suisse au mois de septembre, dans les dernières réunions que j'ai faites dans une ville de Suisse, c'est que maintenant, dans un milieu très évangélique, on met les prières toutes écrites sur un tableau noir, comme on met les cantiques, qu'on fait réciter l'assemblée. Tout le monde doit réciter la prière que l'on a faite là. Eh bien, je me suis dit, puis on se dit évangélique, et puis on se dit que c'est la liberté de l'esprit, et puis on nous conduit, il y a une direction qui est donnée, qui est pire que partout ailleurs. Alors, vraiment, j'étais navré. Et puis pendant une demi-heure, qu'est-ce qu'on voyait? Eh bien, on voyait des gens sur une estrade, c'était un show, avec musique très forte, et puis tout devient évangélique, n'est-ce pas? Il y a le rock évangélique, il y a tout ce que vous voulez. Et alors, on nous bassine les oreilles, on nous rend sourds. Alors, on assiste d'abord, on se réunit pour la table du Seigneur, oui. La table du Seigneur, elle est là. Mais on assiste d'abord pendant une demi-heure à un show, et puis, n'est-ce pas, parce qu'on voit les gens, mais on ne voit pas le Seigneur. Je ne voyais pas le Seigneur, je voyais des gens. Ben, je les aime, parce que je veux bien croire qu'ils sont au Seigneur. Mais ce n'est pas ça un culte, comme on est loin. Et je pensais à un prêtre catholique qui disait qu'au Vietnam, le Seigneur permettait dans les années les plus dures, hein, que tout soit renversé, qu'il n'y ait plus d'église, qu'on puisse plus se réunir pour arriver enfin aux deux ou trois qui sans structure se rassemblent au nom du Seigneur. Donc on y arrivait à ça. Et à communier dans la simplicité apostolique. Mais s'il faudra la persécution pour ça, maintenant, non, il faut se montrer. Des grandes églises évangéliques, il nous faut beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'argent, et alors on impressionnera le monde. Que je pouvais impressionner le monde. Il n'est pas impressionné par nous. Ce qui l'impressionnerait, c'est de voir que nous avons un Dieu vivant, et que nous ressemblons un petit peu à notre Père des cieux. Mais tous ces efforts dits chrétiens sont des efforts humains et charnels, et ça ne tient pas. Et ce qui m'étonne, justement, j'ai vu dans des revues théologiques qui se publient cette année, eh bien, on est en train de démolir tout ce qu'on a fait en disant, nous nous sommes écartés de l'Écriture sainte. Et au fond, on revient à cette simplicité évangélique. Ça m'a bien frappé de voir que maintenant, on arrive à comprendre. C'était pas le vrai chemin, parce qu'il y a un déchet incroyable au sujet de toutes ces conversions qu'on a fait avec les meilleures intentions par manipulation. Or, je vous l'ai dit et je le répète, j'ai en horreur la manipulation. Parce qu'un jour, on vous manipulera pour la bête. Pas vous, j'espère. Mais on vous manipulera pour donner adoration à l'image de la bête. Les gens sont tout prêts à adorer la bête. Ils adorent tout déjà. Et à la télévision, on ne voit que des bêtes. Qui parlent. Alors, attention, mes amis. Nous voulons revenir à ce que c'est que la vraie louange et l'adoration. Alors, si la louange, c'est l'expression de notre reconnaissance, dans la prière d'intercession, on demande des choses, mais dans l'adoration, bien, alors on est occupé de Dieu lui-même, on ne lui demande rien, mais on se prosterne devant lui, on l'exalte pour ce qu'il est et ce qu'il a fait, et on jouit de sa présence. Et on veut en jouir silencieusement, peut-être, parce que c'est comme ça qu'on ressent. Il est là, il est là. Eh bien, dans ce que nous avons vu dans ces précédentes rencontres, je voulais que nous soyons préparés à terminer cette année à la louange. Alors, dans la rencontre précédente, je vous ai parlé de cette règle d'interprétation, la loi de la première mention. Et nous avons cherché ce que voulait dire adorer dans le chapitre 22 de la Genèse. Et c'est pourquoi j'ai cherché à vous demander de lire l'histoire de Jacob. Si nous appliquons cette règle de la première mention au mot louange, eh bien, nous trouvons ce mot, comme vous l'avez découvert, exprimé pour la première fois par cette fameuse Léa. Et moi, je trouve que c'est formidable. C'est Léa, on n'y aurait pas pensé, hein, que c'est Léa qui, femme de Jacob, mais femme pas aimée, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, eh bien, qui a donné ce nom de louange pour la première fois à son quatrième fils. Mais vous savez ce que Léa veut dire, sa signification du mot Léa? Lassé, fatigué. Et comme notre frère l'a souligné, elle avait peut-être les yeux délicats, c'est une façon de dire, qu'elle n'était peut-être pas très belle. Il y en a d'autres qui ont d'autres idées, qu'elle avait peut-être de beaux yeux, c'est tout ce qu'elle avait. Mais en tout cas, elle n'était pas aussi belle que Rachel, qui était belle de stature et de visage. Elle était défavorisée, mais elle était l'aînée. Et alors, vous connaissez tous l'histoire de Léa et de sa sœur Rachel, je n'ai pas besoin d'allonger. Et vous avez répondu par l'étude de ces questions, mais c'est quand même vraiment beau de voir ce qu'il est dit au sujet de Dieu. D'abord, dans ma première question, alors que Jacob était en fuite pour avertir, pour avoir trompé son père, et vous savez comment, et son frère, pouvez-vous discerner la grâce du Seigneur dans sa vie? Bien sûr, le premier soir, quand il s'arrête, il ne veut pas être très glorieux, il prend comme oreiller une pierre, il se couche là, la nuit vient, puis s'endort, son valium. Et voilà que il a un rêve. Et puis ce rêve, c'est un rêve glorieux. Il voit cette échelle, je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais au sommet de l'échelle, qu'est-ce qui était là? Dieu. Et au fond, dans ce Bethel, qu'est-ce qu'il a appris à connaître, quand il s'y est arrêté, et même dans un sens, il a appris à connaître Dieu. Là, il a appris à connaître Dieu, il a appris à connaître son alliance, comme l'a souligné mon frère très justement, l'alliance avec Abraham, Isaac. Eh bien, elle demeurera avec Jacob, malgré le pauvre Jacob qui est un tordu. Mais pourtant, Dieu, dans le sein de Rebecca, lors de son échographie, eh bien, il avait été dit, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Dieu lui a dit que le plus vieux sera assujetti au plus petit. Et c'était sûr, et Dieu aurait réalisé sa promesse. Mais voilà, la pauvre Rebecca, elle est bien de la famille de Laban. Et elle est aussi de la famille Sarah, alors étoile le ciel t'aidera, elle entend Esaü qui préfère Isaac qui préfère Esaü parce qu'il aime le gibier, vous voyez c'est toujours le ventre, l'estomac, il préfère le gibier, alors il est mieux Esaü, et il dit qu'il veut lui donner la bénédiction. Or, Isaac sait bien que Dieu a dit à Rachel, il sait la promesse. Mais voilà, tout Isaac qui est, eh bien, il est prêt à faire un manquement. Et alors, voilà notre Rebecca qui commence à demander à son fils, et savez-vous quel avis il avait quand il obéissait à sa mère, ce cuisinier, parce qu'il aimait faire le potage, il avait 74 ans. Il obéissait encore à maman. Et le pauvre Jacob, il a lutté un moment. Sa mère a dit, je prends tout sur moi. Qu'elle prenne tout sur elle. Mais il a menti. Et c'est quelque chose de très grave. Le mensonge. Et vous savez, quand les chrétiens, quand je vois encore que les chrétiens peuvent mentir, ça me fait peur. Parce qu'il n'y a pas de place pour les menteurs dans le royaume de Dieu. Lisez la dernière page de l'Apocalypse. Tous les menteurs et ceux qui suivront l'agneau qui l'aille, ce sont ceux qui n'ont pas aimé le mensonge. Et le menteur, dès le commencement, c'est Satan. Eh bien, ce qu'a Bethel, qui était Luz, mais qu'il a appelé Bethel, ce que Jacob a appris, c'est ce que Dieu était. Et c'est une révélation. Mais il a eu, comme vous l'avez souligné, la crainte de Dieu, mais il n'a pas cru toutes les promesses. Il a dit, si tu me bénis, si tu me ramènes. Ce n'est pas la pure foi, mais il y a un commencement en toute chose. Alors vous avez vu le commencement de l'œuvre de Dieu dans Jacob à Bethel. Mais il est allé à Charan,
Puis alors à Charan, ben, ça a été le travail. Pauvre Jacob. S'il était resté à Bethel, puis qu'il ait attendu que Dieu se révèle encore davantage à lui, il aurait fait d'autres expériences. Mais il avait en tout cas une expérience qu'il devait faire, c'était apprendre à se connaître, parce qu'il ne se connaissait pas. Et il a certainement dû aussi un peu raconter comment il allait quitter son pays, de sorte que, moi je pense bien qu'au mariage, hein, il pensait que ça serait Rachel, mais quand au matin, il s'est aperçu que c'était Léa, ça allait faire une scène de mélange, du tonnerre. Hein. Et il a dû lui reprocher, comment est-ce que tu as pu avec ton père me tromper? Hein. Mon père, c'est le frère de ta mère. Et puis toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as trompé ton vieux père. Il y a dû avoir une discussion assez orageuse. Et puis alors, bon, après, il y a eu les rapports avec Laban. Et Laban, il avait très bien combiné ça. C'était un bon ouvrier. Il s'est dit, il lâchera pas Rachel encore 7 ans. Et il restera. Et j'aurai encore un berger du tonnerre, parce que ces troupeaux, il avait vu que son neveu, eh bien, était un berger vraiment remarquable. Alors tout était arrangé, c'était un vrai Laban qui voulait faire prospérer son bien, puis mentir, qu'est-ce que ça peut faire? Puis je lui donnerai dans une semaine, je lui donnerai Rachel. Mais voilà, forcément, une semaine après son mariage avec Léa, il a Rachel, et forcément, que, puisqu'il aime Rachel, et qu'il a servi 7 ans pour Rachel, et qu'elle est belle, eh bien, Léa est délaissée, et même, dans un certain sens, haïe. Et alors, c'est là que je vois les yeux de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'abrège, parce que l'heure est venue, j'ai écouté vos rapports, et je vois que vous en êtes bien tirés, mais je lis depuis le verset 31, « L'Éternel vit ». Moi, je trouve ça, c'est formidable. « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée ». Ça ne vous dit rien? Hein? Il y a beaucoup de femmes qui devraient comprendre que Dieu peut-être voit qu'elles ne sont pas aimées de leur mari. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il l'a rendue féconde. Il est intervenu pour la mal aimée. Tandis que Rachel était stérile, il a laissé Rachel dans la stérilité. Et Léa devint enceinte et enfanta un fils, et alors elle lui donne Ruben, qui veut dire donc un fils. L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera, parce que je lui ai donné un fils. Il y a une descendance. Alors elle pense que maintenant son mari va l'aimer. Il lui a donné un fils. Voyez, qu'elle dit. Littéralement, c'est « Voyez, un fils ». Maintenant, elle a quelque chose. Quand Jacob reviendra, elle peut lui montrer le petit. Le petit Ruben, qui est l'aîné. Et puis, il lui donne un second fils. Et alors, elle l'appelle Siméon. Et Siméon, ça a un rapport, non pas seulement avec ce que Dieu, il a vu qu'elle n'était pas aimée, mais il a entendu. Parce que le cher Jacob, il ne devait pas mâcher ses mots. Elle a dû en entendre des reproches. Hein. Verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu. Donc vous voyez, c'est j'ai vu, j'ai entendu. C'est comme dans le chapitre 3 de l'Exode. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a accordé aussi celui-ci. Et elle le nomma donc Siméon. C'est l'exaucement où l'Éternel a entendu que j'étais haï. Puis il lui donne un troisième, c'est Lévi. Et alors là, elle pense que son mari maintenant va s'attacher à elle, mais ça ne suffit pas, elle pense toujours encore à elle-même et à son mari, c'est elle et son mari, mais il faut qu'elle arrive au Seigneur. Et c'est avec le verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Et c'est ce que je voulais vous montrer, la louange, elle s'apprend, n'est-ce pas? Il y a tout un cheminement, il y a tout un apprentissage pour qu'on arrive vraiment à la louange. Cette fois, je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle donna le nom de Juda et elle cessa d'enfanter. Là, c'est arrêté et à la louange, Dieu va s'occuper de Rachel après, mais pour l'instant, nous nous arrêtons là. Et nous continuerons cet après-midi. Donc, la louange, c'est une gratitude individuelle qui compte les bienfaits reçus. C'est une action de grâce qui n'oublie aucun de ses bienfaits et qui embrasse toutes les perfections divines. Dieu voit, Dieu entend, Dieu change les dispositions d'un cœur, et Dieu devient l'objet de la louange. Dieu devient l'objet de la louange. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous accorde un bon repas. Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce?